Vous écoutez Secrets d'Histoire, Voltaire ou la liberté de penser. Troisième partie.
Voltaire et Émilie du Châtelet sont incontestablement le couple phare de ce siècle particulier, le 18e, qui voit naître cette ambition nouvelle chez de nombreux intellectuels de sortir le monde de l'obscurantisme pour le faire rentrer dans la lumière, ou plutôt les Lumières.
Le siècle des Lumières, c'est le siècle qui est éclairé par les Lumières de la raison.
Evelyne Levert, historienne.
Et les hommes et les femmes doivent se fier à leur expérience, à leur connaissance, pour appréhender le monde dans lequel ils vivent.
Donc le 18e, c'est la période où on cartographie intégralement le monde. On commence à comprendre l'ensemble des mécanismes du corps humain.
François Bessire, président de la Société Voltaire.
Et donc, la connaissance permet l'émancipation. On n'est plus soumis à l'obligation traditionnelle de tenir son rôle et de tenir sa place dans une société à la fois religieuse et patriarcale. Justement, parce qu'on a la connaissance, parce qu'on a réfléchi, on peut en sortir.
Et il n'y a pas, à respecter quelque hiérarchie qu'elle soit, fût-elle religieuse.
Elisabeth Badinter, philosophe.
Donc d'apprendre à raisonner plutôt qu'à croire.
Brillants esprits de leur siècle, Voltaire et Émilie du Châtelet n'en oublient pas pour autant de s'adonner aux loisirs variés qu'offre le château de Cirey.
Il y a beaucoup de moments de divertissement, toujours au son de la cloche.
Adélaïde Pringal, propriétaire du château de Cirey.
Alors, on se promène en calèche le long de la rivière, qui est la Blaise, qui coule au pied du château. Voltaire va à la chasse, il est très mauvais tireur. Mais la principale distraction va tout de même rester à Cirey, le théâtre.
Pendant ces années à Cirey, Voltaire poursuit son œuvre théâtrale. Des pièces que le couple joue, avec ses amis, dans un véritable petit théâtre aménagé sous les combles.
Ce théâtre a tous les ingrédients, bien que tout petit, d'un grand théâtre. Donc un rideau de scène, des décors, une loge, des banquettes pour s'asseoir, tout ce qu'il faut pour pouvoir s'amuser. C'est un lieu très important parce qu'ils y passent beaucoup d'après-midi et de soirées. Il y a plusieurs répétitions par semaine, mais aussi plusieurs représentations. Et parfois, on a comme seul spectateur le chien de la marquise du Châtelet. Alors, pour pallier à ce manque de spectateurs, Voltaire fait quelquefois appel à des habitants de Cirey. À l'occasion de L'Enfant prodigue, pièce qu'il a écrite spécialement pour le théâtre de Cirey, eh bien, les villageois qui sont présents sifflent, Voltaire est furieux et puis les chasse à coups de bâton.
Mais le quotidien à Cirey se ponctue aussi de disputes entre ces deux caractères forts. Émilie peut se montrer d'une nature excessivement autoritaire.
Elle choisit comment il doit s'habiller, elle choisit le vin qu'il doit boire, elle lui interdit de montrer certains textes qu'elle enferme à double clé chez elle.
Elle sait que Voltaire écrit des textes subversifs et si on connaissait la nature de ces textes, eh bien les poursuites pourraient être encore plus violentes. Donc Madame du Châtelet surveille tout, elle surveille sa correspondance.
Il y a beaucoup de moments de tension. Alors, quand ils se disputent, déjà, ils parlent en anglais pour éviter qu'on comprenne ce qu'ils racontent. Il n'est pas rare que Voltaire quitte la table en colère, qu'il se fâche, qu'il boude. Et puis après, pour se réconcilier, il renoue le dialogue grâce à des petits papiers qu'il s'envoie par l'intermédiaire des domestiques qui sont sur place.
Voltaire et Émilie demeureront ensemble encore de longues années, partageant une complicité intellectuelle, mais vivant des aventures amoureuses, chacun de son côté.
Marie-Louise Denis, la nièce de Voltaire. Madame Denis incarne une autre des femmes qui comptent dans la vie du philosophe, bien plus qu'une nièce d'ailleurs, puisque Madame Denis sera aussi la maîtresse de son oncle. Alors évidemment, aujourd'hui, ce serait considéré comme un abominable inceste. Mais ce n'est pas le cas à l'époque. Il faut se rappeler qu'on se marie entre cousins à la cour de France. Malgré tout, le philosophe ne fait pas étalage de cette liaison avec une parente qui a 18 ans de moins que lui. Les portraits de l'époque en font une femme pulpeuse avec de l'esprit, apaisante, bien différente de la volcanique Émilie du Châtelet. Mais Madame Denis n'apprécie pas trop la vie à Ferney. Quand elle hérite du château à la mort de Voltaire, elle s'empresse de revendre le domaine, considérant que la vie à Paris est beaucoup plus amusante. Elle cède la bibliothèque de son oncle à l'impératrice de Russie, la grande Catherine II. Ses 7000 ouvrages sont conservés aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de Russie à Saint-Pétersbourg. Voltaire entretient un rapport complexe avec les têtes couronnées. À 50 ans, il cherche encore les faveurs du roi, lui qui a pourtant déjà la gloire, et on le sait moins, la richesse.
Voltaire a constitué sa fortune d'abord par une loterie.
François Jacob, biographe.
Il s'associe à plusieurs de ses amis, notamment le mathématicien Lacondamine, pour profiter d'une loterie très mal organisée, de telle sorte que nos compères s'aperçoivent qu'en achetant tous les billets, on peut gagner le gros lot, le gros lot étant nettement supérieur à la totalité des billets achetés. Et comme cette loterie est mensuelle, on peut toucher 1 million par mois. Vous imaginez, même s'il faut partager, le profit qui a été engrangé par Voltaire.
Ensuite, c'est quelqu'un qui a fait des placements financiers, des placements immobiliers, qui a le sens des affaires.
Pierre-Yves Beaurepaire, historien.
Et qui s'est aussi prêté de l'argent à des gens influents, mais dépensiers. Et il a construit, au fil du temps, une véritable fortune.
Grâce à cette richesse, Voltaire et la marquise du Châtelet mènent un train de vie très confortable. C'est Émilie qui, avec l'argent de Voltaire, s'occupe d'agrémenter le décor de leurs différentes résidences. Le musée des arts décoratifs à Paris abrite des objets dans le style dont raffolait la marquise. Notamment des chinoiseries, très en vogue à l'époque. Des pièces fabriquées en Europe et inspirées par l'Orient.
Alors, Émilie du Châtelet était une passionnée de pagodes et de magots.
Anne Forêt-Carlier, conservatrice en chef au Musée des Arts Décoratifs.
C'est-à-dire des petites statuettes qui représentent des divinités asiatiques vues par l'Occident, donc avec beaucoup de fantaisie, évidemment. Et alors, parmi ces magots et ces pagodes, certaines attiraient particulièrement la curiosité parce qu'elles avaient leur tête qui peut s'actionner d'avant en arrière ou sur le côté, osciller au moindre courant d'air. Donc ça participait aussi de l'amusement des collectionneurs et de leur fierté d'avoir de tels objets au sein de leur collection qui garnissaient les dessus de cheminée, les commodes, il y en avait absolument partout. Les manufactures européennes ont mis de la Chine dans toute la production également de la vaisselle de table. On imagine tout à fait la table de Voltaire et d'Émilie du Châtelet avec des pièces à décor kakiémone qui étaient le type de décor le plus apprécié dans les années 1740.
Devenu un homme riche et célèbre, Voltaire a tout pour être heureux. Pourtant, il lui manque une chose, essentielle à ses yeux, la reconnaissance des puissants.
Il a envie d'être dans la cour parce que ça lui donne du pouvoir.
Didier Massot, historien.
Il souhaite être détenteur de missions qui peuvent assurer son prestige et faire triompher ses idées. Donc des compromissions avec le pouvoir le plus élevé sont nécessaires.
Grâce à ses amis haut placés, Voltaire se voit commander une comédie-ballet donnée à l'occasion du mariage de Louis, le dauphin de France, fils aîné de Louis XV. Le 23 février 1745, c'est à Versailles que se joue devant toute la cour la Princesse de Navarre, le spectacle imaginé par Voltaire. Pour des raisons pratiques, la représentation a lieu dans la grande écurie du château.
Il n'y a pas de théâtre à Versailles. Et donc on construit une structure en bois, auquel d'ailleurs celle d'aujourd'hui peut faire penser, une structure en bois de très grande taille, qui doit permettre à la fois de faire une représentation avec musique, ballet, danse, et à la fois un bal à la fin de la représentation. Il y a des loges sur les côtés, il y a des gradins dans le fond, il y a une très grande scène parce qu'il y a des machines et beaucoup de personnages, et il y a un parterre immense dans lequel est l'essentiel des spectateurs.
Cette pièce, Voltaire a eu du mal à l'achever. Pourtant, il sait qu'il peut en tirer de grands privilèges.
Il se plaint à plusieurs reprises d'être obligé de faire ce travail-là. Et notamment, il écrit que je suis un peu honteux à 50 ans d'abandonner ma solitude et ma philosophie pour devenir le baladin du roi. Mais en même temps, la réussite de la pièce va être déterminante pour la suite puisque ça va lui assurer ce qu'il attend, une charge de gentilhomme ordinaire du roi. Et donc, il va écrire très rapidement pour demander cette charge.
Voltaire accède également à la charge prestigieuse d'historiographe du roi, chargé par Louis XV d'écrire l'histoire de la monarchie et du royaume de France. Puis il obtient ce qu'il convoitait depuis longtemps, un fauteuil à l'Académie française. Mais l'état de grâce dont bénéficie Voltaire à Versailles ne dure pas. Dans cette galerie des glaces, où se massent ceux qui souhaitent obtenir l'attention du roi, il se sent très vite à l'étroit dans ses habits de courtisan.
Il ne regarde pas le roi comme le représentant de Dieu sur terre. Donc à partir de ce moment-là, ça devient difficile de faire ces signes d'adoration qu'on demande aux courtisans. Il est très insolent, très impertinent, on va dire, et que d'autre part, il manie la plume de façon extrêmement efficace. Donc c'est un demi-courtisan plutôt inquiétant, et d'ailleurs, notre pouvoir royal va se méfier en permanence.
Louis XV n'a jamais accepté vraiment Voltaire. Voltaire, lui, est profondément antipathique. Il trouve que c'est un homme qui a des idées subversives et il ne veut pas en entendre parler.
Mais si en France, le pouvoir ne l'aime pas, il est un souverain en Europe qui voue une admiration sans borne à Voltaire et à ses idées. C'est Frédéric II de Prusse, que l'on surnomme le roi philosophe. Depuis longtemps déjà, les deux hommes entretiennent une correspondance passionnée qui a été initiée par Frédéric lui-même alors qu'il était héritier du trône.
Le futur Frédéric II écrit à Voltaire pour qu'il lui corrige ses vers, puisque Frédéric II ne jure que par le français, ne parle l'allemand qu'avec les chevaux, ne met plus haut que tout la langue française et la maîtrise de la langue française.
Il écrit une lettre à Voltaire tellement flagorneuse, comme le plus grand écrivain de tous les temps, comme l'homme qu'il admire le plus en Europe, etc. Et Voltaire est si flatté de se retrouver fêté de cette façon par le futur roi de Prusse, ça lui a donné le vertige.
Il va s'introduire une sorte de complicité entre les deux, complicité dans justement la liberté d'esprit, d'idées. Et Voltaire voit dans le futur roi de Prusse la possibilité d'avoir un rôle particulier, d'avoir le rôle de celui qui pense pour le prince ou participe à l'élaboration d'une réflexion politique. Et il imagine bien ce couple philosophe et roi.
Devenu roi, Frédéric II ne cesse d'inviter Voltaire à venir le rejoindre en Prusse. Une cour épistolaire pressante dont sa compagne, Émilie, prend vite ombrage.
Il y a, entre Voltaire et Frédéric II, une relation très ambiguë. Madame du Châtelet comprend que Frédéric est un rival, et un rival, on pourrait presque le dire en termes amoureux.
Et donc, on est vraiment dans une compétition entre les deux, une compétition de séduction. Voltaire aimerait bien aller à la cour, mais tant que Madame du Châtelet est là, il n'ira jamais.
le destin, terrible, va décider pour Voltaire. Émilie, tombée enceinte de son amant du moment, meurt des suites de l'accouchement le 10 septembre 1749.
Voltaire a été fou de douleur.
Même si de l'amour-passion on est passé à l'amour-amitié, Madame du Châtelet aura été la femme qu'il a le plus aimée de sa vie.
Et c'est à la suite de ce deuil irréparable pour lui et qu'il est parti pour la Prusse.
En juillet 1750, Voltaire arrive à Potsdam, près de Berlin, où est installée la cour de Frédéric II. C'est ici, au magnifique palais de Sans Souci, la résidence d'été du roi, qu'il séjourne à son arrivée. Sa chambre, en pur style rococo, est ornée de guirlandes de fleurs et de fruits et décorée d'animaux exotiques. À la cour, Voltaire obtient le titre honorifique de chambellan. Au quotidien, sa principale tâche consiste à corriger et embellir les vers de Frédéric II. Mais les moments forts de sa vie en Prusse sont en fait ses repas à la table du roi.
Nous accédons ici à la salle d'audience du palais de Sans Souci, qui est également la salle où se passent les dîners.
Docteur Jürgen Lou, historien.
Il faut imaginer la table installée pour les invités de Frédéric. Ce n'est pas une table immense comme on a l'habitude d'en voir dans d'autres palais, comme au château de Versailles sous Louis XIV. C'est une table plus petite et ovale, entourée d'amis triés sur le volet et autorisés à venir ici à Sans Souci dîner avec le roi. Quand Voltaire était à Potsdam, c'est ici qu'il dînait avec Frédéric II.
Il est là, si vous voulez, pour amuser, mettre de l'ambiance.
Mais il n'est pas le seul. Il y a autour de Frédéric plusieurs savants, plusieurs philosophes, et Voltaire va devenir l'un d'eux et il n'est plus le grand, le plus important comme il était au début.
Voltaire se découvre simple faire-valoir d'un roi, dont les vers sont en plus, selon lui, d'une grande médiocrité. Mais ses piques, elles, peuvent être mordantes, comme le philosophe l'apprend à ses dépens.
Voltaire entend une conversation du monarque où on la lui rapporte. On presse l'orange et on jette l'écorce. Voilà donc Voltaire considéré comme en quelque sorte un bouffon dont on peut se débarrasser lorsqu'on n'a plus besoin de ses services.
C'est à ce moment-là où Voltaire sent que le vent a vraiment tourné pour lui, qu'il n'est plus respecté par le roi et qu'il même il est temps de fuir.
Après un séjour de 3 ans, Voltaire quitte la cour de Prusse en mars 1753. Il pense en avoir fini avec le roi, mais un événement rocambolesque va retarder son retour en France.
Arrivé à Francfort, il est arrêté par les sbires de Frédéric II, qui l'assigne à résidence tant qu'il n'aura pas restitué un certain nombre de documents.
Il avait gardé les brouillons des poèmes de Frédéric et les corrections qu'il avait faites. Et quand le roi a appris ça, il s'est dit « c'est une catastrophe pour moi ». On voit à quel point Voltaire était co-auteur de mes écrits.
Voltaire va être bloqué pendant plusieurs semaines.
Il le vit comme une sorte d'humiliation qui lui a été infligée de la part de quelqu'un dont il a quand même auparavant tressé les lauriers.
C'est
presque une farce qui se joue à Francfort, une farce assez sinistre, dont Voltaire finit toutefois par sortir.
Après avoir rendu les documents, Voltaire peut enfin repartir. Le roi et le philosophe ne se reverront plus, mais leur amitié épistolaire reprendra malgré tout.
Dès son arrivée à Ferney, Voltaire estime que la petite église du domaine masque la perspective sur le château et il entreprend des travaux pour la changer de place et dessiner une allée centrale. Évidemment, cette initiative, entamée sans autorisation, n'est pas du tout du goût des autorités ecclésiastiques. Voltaire doit renoncer et reconstruire la façade. Il fait malicieusement apposer une inscription que vous voyez au sommet. Deo erexit Voltaire, érigée par Voltaire à Dieu. Elle est d'autant plus mal perçue que son nom y figure en lettres beaucoup plus grandes que celles du nom de Dieu. Voltaire est souvent malade et il sait que la mort peut l'emporter à tout moment. Il souhaite être enterré à Ferney et il fait construire ce tombeau en forme de pyramide adossé au mur de l'église. Comme ce tombeau est simplement accolé à l'extérieur, Voltaire espère que son ironie perdurera outre-tombe. Les malins diront que je ne suis ni dedans ni dehors. Voltaire apprécie tout particulièrement son jardin. Son influence ne se limite pas à son château, c'est tout le village qui profite de la présence du philosophe. À l'arrivée de Voltaire, Ferney n'est qu'un hameau de 120 personnes. Et 15 ans plus tard, le village compte 1200 habitants. Voltaire y installe des fermes pour les paysans, des horlogers, mais aussi des fabricants de soieries. Il fait assécher les marais, construire des maisons, un théâtre, édifier une fontaine publique et paver les rues. Après ses déboires auprès des rois de France et de Prusse, c'est une façon pour Voltaire de devenir à son tour roi, le roi de Ferney. Voltaire n'est pas parvenu à tisser des liens pérennes avec les puissants. Il se cherche un refuge pour s'établir de façon durable. Ce sera Genève, puis Ferney. C'est une nouvelle page de sa vie qui s'ouvre, sans doute la plus importante.
À 60 ans, Voltaire tombe sous le charme d'un endroit calme et bucolique à proximité du lac Léman. Une petite propriété paisible de Genève, d'où il aperçoit le Mont Blanc.
Nous sommes dans le grand salon des Lys, la propriété qu'achète Voltaire à Genève, qui s'appelait à l'époque la propriété de Saint-Jean.
Flavio Bordadagua, conservateur adjoint du musée Voltaire de Genève.
Et Voltaire s'y sent tellement bien qu'il s'installe dans ses délices, comme il le nomme dans sa correspondance. C'est un Voltaire qui devient propriétaire, alors qu'il a été vraiment très itinérant tout au long de sa vie, depuis qu'il a quitté la cour à Paris. Et Voltaire va faire un grand nombre de travaux, notamment agrandir la maison pour pouvoir s'y installer d'une manière un peu plus agréable, mais également sur les extérieurs. On va voir pousser de nouveaux arbres, des vignes, dans le parc des Délices. À l'époque, la République de Genève est indépendante. Elle ne fait partie d'aucun royaume, donc il est hors des frontières françaises, hors des frontières prussiennes également, donc il s'installe dans un territoire totalement neutre.
Ce qui est très important à Genève pour Voltaire, c'est d'une part d'être à côté de la France, mais juste de l'autre côté de la frontière, et donc d'éviter les attaques éventuelles qui viendraient des autorités françaises, parce qu'il est devenu très méfiant. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a tout un monde de l'édition francophone à Genève et en Suisse, qui pour lui va être une formidable caisse de résonance pour son œuvre.
Au Délice, Voltaire s'installe avec Madame Denis, sa nièce et maîtresse. C'est elle qui gère l'intendance de la maison. Voltaire passe beaucoup de temps dans son jardin, reçoit, mais son activité principale demeure l'écriture. Voltaire écrit notamment son poème sur le désastre de Lisbonne, après le tremblement de terre de 1755. Mais surtout, il rédige son ouvrage le plus connu, le plus lu encore aujourd'hui, son conte philosophique, Candide, dans lequel il reprend tous les grands thèmes des Lumières.
L'ouvrage qui est ici, c'est l'édition originale de ce texte traduit de l'allemand de monsieur le docteur Ralph de 1759. Alors aujourd'hui, nous savons que ce texte est de Voltaire, mais au départ, Voltaire utilise une fois de plus un pseudonyme pour faire passer ses textes. L'utilisation du pseudonyme va permettre à Voltaire de diffuser quelques passages de Candide déjà dans sa correspondance et finalement de faire la promotion du docteur Ralph en indiquant que c'est un ouvrage à avoir entre toutes les mains. D'après ce qu'il a pu lire, il en cite des passages. C'est une véritable campagne publicitaire, une espèce de teasing avant l'heure qui va faire en fait que Candide deviendra le best-seller de la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Voltaire est lui-même surpris du succès de ce conte. Très rapidement, près de 20 000 exemplaires sont vendus. C'est pour l'époque un chiffre tout à fait considérable. Le conte est débité sous divers formats, en in quarto, en in octavo, c'est-à-dire des formats de poche ou des formats plus luxueux. Bref, Candide est un succès planétaire, pratiquement.
Rapidement, la propriété des Délices devient trop petite pour recevoir tous les invités qui veulent rencontrer le philosophe. De plus, Voltaire ne trouve pas à Genève la pleine liberté qu'il espérait.
À Genève, il y a quelque chose que Voltaire admet difficilement, c'est que le théâtre soit interdit. Alors, il fait des arrangements et il donne des petites représentations théâtrales aux Délices.
Il a des ennuis avec les pasteurs genevois qui voient d'un très mauvais œil qu'il organise des séances de théâtre aux Délices, qu'il entraîne les filles des pasteurs calvinistes à jouer la comédie, ce qui est tout à fait inadmissible, bien entendu. Bref, il décide de gagner le château de Ferney.
Et alors, c'est un lieu extraordinaire dans la mesure où c'est en France, mais c'est sur la frontière suisse, donc un lieu stratégique.
Il va faire de Ferney une utopie réalisée. C'est-à-dire un monde où on met la terre en valeur, où on vit confortablement, où on est à l'abri.
Il va en profiter pour essayer d'aménager à sa guise le village de Ferney, qui était dans un état assez misérable, et se lancer dans de multiples entreprises qui montrent que ce n'est pas simplement un pur esprit, mais qu'il est capable d'agir et de faire le bien autour de lui. Et ceci aura un immense retentissement.
Sous le règne de Voltaire, Ferney connaît un développement spectaculaire. Cette croissance est due essentiellement à l'arrivée massive d'horlogers. Voltaire profite d'une crise sociale à Genève pour faire venir ses artisans. Quelques exemplaires des montres fabriquées à cette époque sont parvenus jusqu'à nous. L'une d'elles est conservée au musée du Louvre.
Voltaire installe à Ferney un certain nombre d'ateliers, il fait construire des maisons, il les accueille bien sûr à bras ouverts, on dit même qu'il a logé certains ouvriers dans son château de Ferney.
Catherine Goujon, documentaliste au département des objets d'art du musée du Louvre.
Il leur fournit de l'or et il va vraiment essayer de les soutenir, de faciliter leur travail. Il s'oppose en cela tout à fait aux dirigeants de la République de Genève.
En quelques années, la petite ville devient un important centre de production. En 1773, elle compte 600 ouvriers et on estime à 4000 le nombre de montres fabriquées la même année. Il faut dire que Voltaire met tout en œuvre pour faire fonctionner son activité.
Il va solliciter tous les courtisans, les aristocrates, en vantant les mérites de ses montres. Il dit qu'elles sont les plus jolies, qu'elles sont aussi belles que celles qui sont fabriquées à Paris, à Londres et à Genève, et qu'elles sont moins chères. Et ça, c'est un argument de vente très important pour Voltaire, qui finalement devient une sorte de VRP de l'horlogerie de Ferney. Ces montres sont vendues dans certains pays européens, comme l'Espagne, la Hollande, l'Italie. Elles sont également vendues en Turquie.
Il les vend jusqu'à l'impératrice de Russie, Catherine II, à qui il dit « Ah, mais sans doute, vous êtes-vous trompé, je ne sais pas ce qui s'est passé, vous aviez commandé 10 montres et je ne sais pas ce qui s'est fait, mais je vous en ai envoyé 100 par erreur », sachant bien entendu que Catherine II allait payer les 100 montres. Enfin, bon, on a ainsi tout un lot d'anecdotes plus savoureuses les unes que les autres, mais qui montrent que Voltaire a été un poumon économique pour l'ensemble du pays de Gex pendant les 18 ans de son séjour.
Vous venez d'écouter Secrets d'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Secrets d'Histoire sur les réseaux sociaux. Secrets d'Histoire est un podcast d'Initial Studio, adapté de l'émission de télévision éponyme, produite par la Société européenne de production pour France Télévisions. Cet épisode a été écrit par Marie-Laurence Reims. Il a été réalisé par Marie-Laurence Reims et Xavier Lefebvre. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassan. Montage, Camille Legras, avec la voix d'Isabelle Benadj.